La Sainte Famille nous est donnée en exemple. À chaque fois qu'un prédicateur doit se lancer sur un sujet aussi épineux, il tremble. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Tant les personnes qui la composent nous paraissent hors de portée. Pourtant, l'Église n'a que faire de nous proposer des idéaux qui ne sont souvent que le miroir fugace de nos fantasmes. L'idéal est par définition inatteignable. Aussi, la liturgie fait-elle mieux. Elle nous propose des modèles. « Si tu le veux, tu peux garder les commandements », dit Ben Sira. Quand les commandements obligent, on peut les mettre en pratique, car Dieu ne nous ordonne pas ce que nous ne pouvons pas accomplir. Alors, pour prendre la Sainte Famille en modèle, mieux vaut partir des modèles que la Sainte Famille s'est choisie. Ce sera plus simple. Et pour cela, scrutons les Écritures. Relisons en particulier, et je vous conseille de le faire chez vous, si vous ne l'avez déjà fait, ces conseils de Ben Sira, justement. Parce que le programme de vie qu'ils contiennent a non seulement animé le foyer de Nazareth, mais il a encore rayonné dans toute la vie publique de Jésus. Nous avons quelques mentions fugaces sur cette vie de la Sainte Famille dans l'évangile de Saint Matthieu, l'évangile de Saint Luc, mais en fait, on en trouve beaucoup plus d'éléments si on rétroprojette ce que Jésus fait et la manière dont il apparaît dans sa vie publique jusque dans la Sainte Famille où il a été formé. Parce que le Christ que la foi nous donne à croire dans ses discours et à contempler dans ses miracles est celui-là même qui a grandi dans la Sainte Famille de Nazareth. Alors, vous avez entendu Ben Sira qui nous disait « Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants ». Voilà une parole que Jésus pouvait faire sienne. Ses miracles, ses discours, le don de lui-même, son amour jusqu'à l'extrême, tout cela lui a été commandé par le désir de glorifier Saint Joseph et celui dont Joseph était l'icône terrestre, son propre Père du ciel. Sans ce désir de se dépasser pour être à la hauteur de ce que son Père attend de lui, l'amour dont Jésus nous a aimés resterait vague, abstrait, sans prise sur le réel. Il faut aller jusqu'à dire que les vertus de Jésus se sont développées à mesure de l'exigence paternelle que Joseph avait pour lui. Ces vertus se sont maintenues, de son esprit filial, dont Joseph était le médiateur. Comme d'authentiques vertus humaines, elles ont cru par imitation de modèles et par un effort soutenu. Ben Sira nous dit encore « Celui qui honore son père se réjouira dans ses enfants ». Donc, honorant Joseph, Jésus se préparait à devenir père, père du siècle futur, comme disait l'oracle proclamé dans la nuit de Noël. Jésus est le patriarche de la famille de Dieu, la cause de la sainteté des élus. Il se réjouit dans cette immense descendance que le Seigneur lui a donnée, plus nombreuse que les étoiles du ciel, ou que les grains de sable au bord de la mer. Et cette mission lui revenait par héritage. Joseph, en effet, a inscrit Jésus dans une lignée de rois à laquelle Dieu avait promis d'une promesse qui ne peut pas être démentie, au temps du roi David, que cette dynastie régnerait pour toujours sur le peuple saint. Bref, ce qu'on appelle, dans le langage savant, la conscience messianique de Jésus est incompréhensible sans se référer à celle de son rang que lui a transmise Joseph. Le Seigneur affermit l'autorité de la mère sur ses enfants, nous dit encore Ben Sira. Vous voyez la finesse psychologique de cet auteur, puisque un fils glorifie son père par ce qu'il accomplit, mais il réjouit sa mère par sa fidélité envers Dieu. Il nous dit encore, celui qui obéit au Seigneur procurera le repos à sa mère. Parce que pour le père, ce qui compte, c'est ce que l'on fait. Pour la mère, ce que l'on est. Et on devine, dans ces mots, l'admiration muette et contemplative de Marie pour son fils, pour le mystère ineffable de sa naissance, pour le chef-d'œuvre de grâce qu'il était et qui a fait d'elle la plus heureuse des mères, d'une joie dont on ne peut même pas avoir idée, puisque cette joie se répercutait dans une âme pure et sainte, tout entière, disponible pour les impulsions de l'esprit. Celui qui glorifie son Père prolongera ses jours, dit enfin Ben Sira. C'est un écho du décalogue. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que Dieu te donne. On savait déjà que Jésus n'était pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Mais ce commandement va plus loin. Il nous dit que la vie éternelle, acquise par Jésus, sa qualité de patriarche du ciel, Dieu la lui a donnée pour le récompenser d'avoir observé le quatrième commandement. Et il n'est pas, jusqu'à la finalité rédemptrice de la passion, que Ben Sira ne permette de raccrocher au précepte de la piété filiale. Vous avez entendu, celui qui honore son père expiera les péchés. La traduction disait expiera ses péchés, mais en fait c'est pas ça. Le texte dit celui qui honore son père expiera les péchés. Pas les siens, forcément, mais expiera les péchés en général. Donc dans la passion, Jésus ne pensait pas seulement à chacun d'entre nous. Il pensait aussi à ce que Joseph attendait de lui. Ainsi, notre rédemption résulte comme un effet d'un code aristocratique de l'honneur dûment observé par Jésus, héritier de la dynastie de Judas. Il faut rentrer dans l'épaisseur des Écritures, des personnes, de ce qu'ils ont été concrètement pour comprendre ce qu'ils ont fait. Célébrer la Sainte Famille, ça n'est pas sacraliser tel ou tel modèle familial, puisque la nature en a inspiré plusieurs aux hommes depuis qu'ils existent. Mais célébrer la Sainte Famille, c'est plutôt remonter à la formation concrète, réelle, de l'Esprit du Christ, modèle et cause de toutes les vertus. C'est de Marie et Joseph que Jésus a reçu la conscience de son devoir. On sait bien que la conscience du devoir naît de ce que l'on a reçu de ses parents. Aussi, lorsque Jésus dit « Je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem », lorsqu'il dit « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté à la Genèse », sinon du sentiment du devoir inculqué par Marie et Joseph. On a remarqué de longue date que la conscience de Jésus s'était formée à partir des oracles du serviteur souffrant qui offre sa vie en sacrifice d'expiation. Vous connaissez ces magnifiques oracles que l'on chante pour la Semaine Sainte, qui sont vraiment des portraits anticipés de Jésus souffrant. Est-ce que Jésus les a lus dans la bibliothèque familiale? Oui, certainement. Mais leur contenu réel, lui a été transmis aussi par sa fréquentation du cœur de la Vierge Marie, dont il partageait l'intimité filiale. Fille de prêtre, elle est née et a grandi près du temple. Elle attendait la descente de l'Esprit purificateur en récompense d'un sacrifice parfait qui expirait les péchés une fois pour toutes. Telle était l'espérance des prêtres en Israël, telle la religion de Marie, directement transmise de son cœur immaculé à celui de Jésus. Lorsqu'il méditait le psaume « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation » et « Tu m'as fait un corps », il est écrit pour moi dans le livre « Que je dois faire, ô Dieu, ta volonté », eh bien, tout cela était vécu de ce qu'il recevait aussi de la conscience religieuse de sa mère, mère du grand prêtre de l'Alliance Nouvelle, et qui a formé le cœur de son fils pour cela. Bref, la Sainte Famille est le creuset doré dans lequel cette volonté, où nous sommes sanctifiés, dit l'Épître aux Hébreux, dans lequel cette volonté s'est formée. Selon la collecte de la messe de ce jour, nous demandons à Dieu d'imiter les vertus de la Sainte Famille. Il ne convient pas d'inverser le modèle et son imitation. Ce n'est pas la Sainte Famille que nous devons croire à l'image de ce que nous pensons être une famille chrétienne, avec tout le respect que j'ai pour elle. C'est l'inverse. Il y aurait beaucoup à retenir, par exemple, du réalisme prophétique de Joseph, que l'on voit en permanence prendre des décisions, discerner entre des choix difficiles où, en apparence, il n'y a jamais de solution idéale. Pourtant, il choisit toujours le meilleur. Il apparaît comme un modèle de prudence. On pourrait illustrer par lui le don de conseil. Il y aurait beaucoup à dire sur Marie, gardant toutes ces choses dans son cœur, prenant au sérieux sa mission de mémoire vivante et éblouie des merveilles dont elle a été à la fois témoin et actrice. Bien des éléments de la biographie surnaturelle de Jésus nous feraient remonter à ce qu'il a reçu de Joseph et de Marie. Mais je relève surtout, pour finir, cette admirable providence de Dieu d'avoir choisi une famille comme creuset des vertus nobles et durables. Les constructions politiques sont artificielles et partant fragiles. D'ailleurs, elles se maintiennent par l'intérêt, la crainte, l'intimidation, le poids de l'habitude, rarement par des passions avouables. Elles ne se dotent d'une logique propre qu'en s'émancipant de la loi naturelle. Et les types humains qu'elles suscitent, lorsqu'elles sont réduites à elles-mêmes, ne sont au mieux que des bureaucrates. Dieu a voulu que ce soit de la famille, de ce fondement même de l'être, ce lieu où la vie jaillit, comme un don gratuit, entièrement reçu du Seigneur, et stylisé dans les rites et les sacrements qui accompagnent les célébrations du mariage, la croissance des enfants, bref, toutes ces choses qui sont des réalités saintes et qui transcendent les cultures. C'est là-dedans que Dieu a fait germer les vertus de Jésus, auxquelles nous pouvons nous-mêmes puiser par l'Esprit que nous avons reçu, cet Esprit du Christ que Saint Paul s'enorgueillissait de posséder. Alors, évidemment, ce qui ressort de cela, c'est que la famille est une institution d'une force intérieure, inouïe. Elle est attaquée, bien sûr, évidemment. Ça, c'est les malheurs des temps. Elle est attaquée par bien des raisons. Mais en fait, il faut surtout partir de la conviction de cette force interne qui l'anime et qui a produit ses plus beaux fruits en Jésus. Et donc, il faut suivre cet exemple.